Et puis on va débuter les matins avec le journal d'Anne Lorchouin. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le vaccin contre le coronavirus est officiellement autorisé par la Commission européenne qui a donné son feu vert hier. La vaccination va commencer dès ce dimanche dans les pays de l'Union. Nous y reviendrons au début de ce journal.
Et puis aux États-Unis, la campagne de vaccination a débuté il y a quelques jours déjà. Et hier, c'est Joe Biden lui-même qui s'est fait vacciner face caméra pour donner l'exemple.
La France ne se reconfine pas pour Noël, contrairement à ses voisins européens. Ça n'est pas forcément une mauvaise idée. Nous entendrons l'avis d'un infectiologue. Et puis nous irons au Liban où les réfugiés syriens chrétiens s'apprêtent à passer un Noël particulièrement sombre. Après ce journal, Guillaume.
Le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, on en parlera dans une dizaine de minutes dans la question du jour avec Khadija Mohsen Finan, enseignante à l'université de Paris 1.
C'était un feu vert attendu, il est désormais officiel. L'Agence européenne du médicament a donné son aval hier au vaccin contre le Covid des laboratoires Pfizer-BioNTech. La Commission européenne a autorisé dans la foulée sa mise sur le marché par la voix de sa présidente pour une campagne de vaccination qui sera lancée les 27, 28 et 29 décembre. Une excellente façon de terminer une année 2020 difficile selon Ursula von der Leyen qui a vanté une vraie réussite médicale européenne. Le vaccin sera disponible dans tous les pays de l'Union au même moment et dans les mêmes conditions, alors que d'autres États du monde ont déjà lancé leur campagne de vaccination. Les appels à une décision rapide de l'Europe devenaient pressants. Le point avec Angélique Boin.
Les rotations de camions à la sortie de l'usine belge Pfizer vont donc s'accélérer. Objectif, que les premières injections puissent se faire au même moment dans les 27 pays. Et ce sera à partir de dimanche prochain, sur 3 jours, les 27, 28 et 29 décembre. Chaque État membre sera servi au prorata de sa population. Un accès simultané à des vaccins sûrs, efficaces, abordables pour tous. Symbole de la solidarité européenne en action, se félicite la commissaire à la santé. Une vaccination qui se fera par étapes, précise Stella Kyriakides. Les 27 ont pour la plupart suivi les recommandations de la Commission. Personnel de santé, personnes âgées, plus fragiles seront partout en Europe les premiers vaccinés, avec des injections programmées dès dimanche prochain dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, où des milliers de doses étaient déjà stockées. En milieu de semaine prochaine seulement en Italie, où l'on va procéder par tranche d'âge. Pour les pays au système de santé fragile, des fonds européens ont été mobilisés.
Un vaccin dont l'Agence européenne estime que, je cite, rien ne prouve qu'il ne sera pas efficace contre la nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni. Aux États-Unis, où le nombre de cas a franchi hier la barre des 18 millions, ce sont désormais 2 vaccins qui sont utilisés depuis hier. Les autorités sanitaires injectent aussi le sérum fabriqué par Moderna. Hier soir, 600 000 Américains avaient déjà été vaccinés, dont le président élu Joe Biden, 78 ans, qui investira la Maison-Blanche en janvier, comme d'autres dirigeants avant lui. Il s'est fait vacciner devant les caméras de télévision pour montrer l'exemple. À Washington, Gregory Phillips.
Face aux caméras, Joe Biden relève la manche de son pull et se fait vacciner dans l'épaule gauche. Puis le président élu remercie les médecins, les scientifiques et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces vaccins. On vous doit beaucoup, c'est un grand espoir. Je fais ça pour montrer que les gens doivent se préparer. Aucune raison de s'inquiéter. Dans un dernier sondage, 7 Américains sur 10 disent qu'ils sont prêts à se faire vacciner. 30% des personnes interrogées hésitent ou refusent. Puis Joe Biden, de manière assez inhabituelle, salue le travail de l'actuelle administration qui, en 9 mois, a monté l'opération Warp Speed, vitesse de l'éclair, pour favoriser l'arrivée des vaccins. Le président élu, toutefois, prévient. Ce n'est que le début, cela va prendre du temps. Je ne veux pas être rabat-joie, mais j'espère que les gens vont écouter les experts. Portez des masques pour Noël et le Nouvel An. Et si vous n'y êtes pas obligé, ne voyagez pas. Les autorités sanitaires espèrent avoir vacciné 20 millions d'Américains au 31 décembre. C'est un travail de titan qui attend les personnels de santé. Ce sont de vrais héros. Et vous êtes l'une d'entre elles, dit Joe Biden à l'infirmière qui vient de le vacciner.
320 000 personnes sont mortes du virus aux États-Unis et le nombre d'hospitalisations atteint des records, plus de 115 000. Hier, la Chambre des représentants a accepté le principe d'un nouveau plan de soutien aux familles et aux entreprises affectées par la pandémie. Plan auquel le Congrès vient de donner son aval. Des chèques vont notamment être envoyés dès la semaine prochaine aux familles, $600 par adulte et par enfant.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin en France. On se prépare à passer un Noël prudent, mais sans confinement, contrairement à beaucoup de nos voisins européens.
Le Royaume-Uni inquiète de cette nouvelle souche très contagieuse, comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ont en effet opéré un tour de vis sanitaire, mais Paris garde son cap, couvre-feu et réveillon autorisé pour Noël. Et selon certains professionnels de santé, ça n'est pas déraisonnable. Il faut sortir d'une gestion alternant confinement et déconfinement et réfléchir à long terme. C'est en tout cas l'avis de Benjamin Davido, infectiologue et directeur médical de crise du Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
On a une longueur d'avance parce qu'on a commencé finalement à prendre des décisions pour une fois par anticipation plutôt que les autres. Il ne faut pas perdre cette longueur d'avance. Mais en même temps, je crois que le calendrier qui a été donné aux Français fait que chacun a pris ses dispositions et qu'aujourd'hui, s'il y avait une contre-mesure et un contre-ordre de ce qui a été décidé il y a quelques semaines déjà, ces décisions seraient complètement inaudibles et mal appliquées et on serait plutôt dans quelque chose de coercitif que quelque chose d'incitatif. Et encore une fois, tant bien même on dirait qu'on nous allons confiner entre le 25 et le 31, la problématique, à mon avis, va beaucoup plus loin. C'est qu'est-ce qu'on fait en ce début d'année et qu'est-ce qu'on fait pour cet hiver ? Il y aura d'autres moments où il y aura des brassages de population, il y aura d'autres vacances l'année prochaine, il y aura d'autres événements, il y aura la galette des rois, il y aura les vacances de Pâques. Et donc, encore une fois, c'est un changement des mentalités et de la perception de la transmission de ce virus sur la durée qui nous permettra d'être efficace plutôt que cette technique du stop and go qui consiste à, lorsqu'on est dos au mur, prendre des mesures de toute urgence pour éviter la saturation de l'hôpital. Je crois qu'il faut désormais anticiper. On n'a plus de raison de dire qu'on ne sait pas. Le virus, il est là durablement. Et la meilleure façon, à mon avis, c'est de le doubler par la droite et que chacun prennent ses responsabilités face à cette épidémie.
L'infectiologue Benjamin Davido, interrogé par Bénédicte Robin. Et puis le Conseil national de l'Ordre des médecins a annoncé hier avoir déposé une plainte contre 6 médecins dont les professeurs Didier Raoult, Christian Perron et Henri Joyeux pour des propos controversés tenus publiquement sur la pandémie et sa gestion. À 7h25 toute cette semaine, le reportage de la rédaction revient sur une année de Covid et notamment ce matin sur ce nouvel objet entré dans nos vies, peut-être pour y rester longtemps, le masque, un objet fort utile mais fort polluant s'il est jeté. Anne Fauquemberg est allée dans la Vienne où l'entreprise Plextil a mis au point l'année dernière un brevet pour recycler les fibres textiles et donc les masques chirurgicaux grand public. Elle a rencontré l'un des cofondateurs de cette entreprise, Jean-Marc Neveu.
On est extrêmement fiers de ce qu'on a fait parce qu'on a un sentiment, alors peut-être erroné, hein, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de me le dire, mais d'avoir fait un peu bouger les lignes, en fait, hein, de dire que une petite entreprise qui n'est pas à Paris, à la station F, pardon pour l'image, qui se situe en province, à Châtellerault, ou qui est plutôt identifiée comme un vieux bassin industriel, arrive à être la première société au monde à faire du recyclage de masques jetables. Donc on est plutôt fiers de ça. Et puis on a des témoignages, tous les gens nous envoient des masques par la poste hein, en disant « continuez, on est extrêmement fiers de ça, de participer à ça. Demain, ben, peut-être que Plaxil sera une référence sur ce mode un peu hybride de consommation, ce changement de modèle, cette circularité, cette solidarité et puis cette écologie qui apparaît un peu comme prioritaire aujourd'hui.
Un reportage d'Anne Fauquemberg à retrouver à 7h25. Le dossier Ceuta et Melilla revient sur la scène diplomatique. Hier, l'Espagne a convoqué en urgence l'ambassadrice du Maroc à Madrid après des déclarations du Premier ministre marocain sur les deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc. Il a en effet proposé d'ouvrir la question de la souveraineté sur ces territoires, les seuls vestiges des territoires africains anciennement contrôlés par l'Espagne. Un dossier hyper sensible entre les deux pays qui sont aussi en délicatesse sur la question du Sahara occidental. Et alors que le monde entier se débat avec le coronavirus, la Syrie s'apprête à entrer dans sa 10e année de guerre civile. Un conflit délaissé peu à peu par les médias, mais que n'oublient pas les millions de Syriens déplacés dans leur propre pays ou réfugiés dans les pays limitrophes, Turquie, Jordanie, Irak et Liban notamment, qui accueillent près de 5 millions de ces déplacés. La plupart d'entre eux sont de confession musulmane, mais le Liban accueille des réfugiés chrétiens qui s'apprêtent à célébrer Noël comme ils peuvent, car déplacés de Syrie, ils vivent désormais dans un pays frappé en ce moment par la pire crise économique de son histoire. Le reportage à Beyrouth du correspondant de France Culture Aurélien Colli.
Ils vivent assises dans 20 mètres carrés, la famille d'Elan, réfugiée d'Alep en 2015. Il y a Naja, la grand-mère, Dalia et Joseph, les parents, et Marc, Michael et Nancy, leurs trois enfants.
Au Liban, c'est très difficile, on est sous pression, on est les uns sur les autres dans l'appartement, et pour Noël, on célèbre seul, on va juste à la messe, on prie et on revient, explique Dalia, nostalgique de la maison familiale en Syrie et des Noëls bien entourés. Mon oncle venait en Père Noël, il distribuait les cadeaux, raconte Nancy, sa fille aînée de 15 ans. Mais aujourd'hui, les oncles, les cousins, les amis, chacun est dans un pays différent, en Suède, en Allemagne, au Canada. On ne peut plus être tous ensemble, poursuit l'adolescente, en détaillant des souvenirs de réveillons et de plats traditionnels. Au Liban, les Noëls sont beaucoup plus sobres, surtout avec la crise économique qui frappe depuis un an. Un sapin, certes, mais juste quelques plats et peut-être quelques cadeaux, car la famille d'Elan s'en sort à peine avec de l'aide humanitaire et un peu de travail quand il y en a. J'ai quitté la Syrie pour mes enfants, je fais tout ce que je peux pour qu'ils ne sentent pas qu'on manque, explique Dalia, qui était professeure d'anglais en Syrie et qui sert désormais le café aux cérémonies funéraires libanaises. Les enfants adorent les voitures télécommandées, mais c'est fonction du boulot, des moyens. J'essaye de ramener au moins un cadeau qui fait plaisir, ajoute son mari Joseph, électricien et musicien par passion. On ne retrouvera jamais la Syrie d'avant. 10 ans de guerre ont tout détruit, regrette encore Dalia. Le couple rêve maintenant d'une nouvelle vie en Australie et leur fille aînée Nancy de devenir juge pour aider ceux qui sont victimes d'injustice.
Aurélien Colli à Beyrouth. On termine avec un mot du temps de ce mardi 22 décembre. Des éclaircies au sud, mais toujours de la pluie au nord. Toute la journée, le vent restera également sensible. Les températures restent douces. Il fera de 4 à 13 degrés ce matin, de 13 à 16 degrés en général cet après-midi, jusqu'à 20 degrés sur le Pays Basque.
Merci beaucoup, Anne Lorchouin. Dans environ 10 minutes, nous évoquerons dans le reportage de la rédaction la manière dont on peut recycler les masques chirurgicaux et dans quelques instants, même si on a peu l'occasion de prendre l'avion ces temps-ci, on va évoquer l'ouverture d'une ligne aérienne, mais pas n'importe laquelle, celle qui relie Tel Aviv à Rabat, et ça sera avec Khadija Mohsen Finan, enseignante à Paris 1.